pas, demandons à l'Esprit Saint de nous, oui, de nous conduire dans ce moment de méditation après la liturgie. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, de pouvoir nous pencher sur la parole qui est une parole de vérité. Cette parole n'est pas faite pour toucher notre intellect, Seigneur, elle est faite pour toucher notre cœur et organiser notre vie. Donc, nous te demandons que ton Saint-Esprit soit vraiment présent maintenant. Que les paroles qui vont être dites, Seigneur, viennent de toi, soient transcendées par toi, que ce ne soient pas des paroles d'homme, mais que ce soient des paroles d'homme transformées par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de comprendre, Seigneur, en profondeur, ce que tu veux nous dire à chacun, et il n'y a que ton Saint-Esprit pour nous faire comprendre cela, Seigneur. Alors sois présent. Merci, Seigneur, de l'être. Amen. Je vais lire deux passages. Le premier, dans Galates, au chapitre 5. Non, c'est un passage très connu. Je ne vais pas m'attacher aux mots de ce passage, je vais m'attacher simplement à une idée. Je lis donc Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, car la chair a ses désirs, a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre telle chose, contre telle chose. Ceux qui sont au Christ sont, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et le deuxième texte que je veux vous lire, c'est dans Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 15. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15. Gardez-vous, c'est Jésus qui parle. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est pour le contexte. Maintenant, quelque chose qui nous intéresse directement dans ce que je vais dire. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En juillet juillet 2006. Longtemps, hein? À l'occasion d'une convention chrétienne, j'ai entendu le témoignage de Georges Dabot, pasteur d'une église arménienne à Montréal, qui racontait le terrible accident dont il avait été victime. Il prenait quelque chose dans le coffre de sa voiture lorsqu'une autre voiture l'a percuté par derrière. Il s'est retrouvé sous sa voiture, les genoux repliés sur lui dans un espace de 30 cm de hauteur. Il nous a raconté comment Dieu l'a rétabli en guérissant miraculeusement les fractures, hémorragies, lésions diverses pour lesquelles on devait l'opérer. Il est entré 4 fois dans le bloc opérateur, dans le bloc opératoire, et 4 fois, il en est ressorti avant qu'on l'opère, car les choses s'étaient rétablies. Comme il disait lui-même, Dieu était passé avant. Ce témoignage est à la fois étonnant et merveilleux. Il nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. Souvenez-vous. Rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que l'ange a dit à Marie, qui n'avait jamais eu de relation avec Joseph, et à sa cousine Élisabeth, déjà âgée et stérile, et qui pourtant vont chacune mettre un enfant au monde, Jésus et Jean-Baptiste. Ça, c'est le bonus. Mais ce n'est pas cette intervention spectaculaire de Dieu qui a retenu mon attention. Ce qui m'a frappé, c'est que ce pasteur miraculé a dit en terminant son témoignage. Voilà ce qu'il a dit. À un moment donné de notre vie, il faut que l'empreinte et le caractère de Jésus soient inscrits en nous. Ce n'est pas ce qu'on fait qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est l'attitude de cœur que nous avons. La question fondamentale est la suivante: que devenons-nous dans le Seigneur? Ce n'est pas ce qu'on fait qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Cette affirmation est quand même dérangeante. En effet, de nombreux passages de la Bible nous disent que la foi véritable se traduit toujours par des œuvres. Et voici le plus connu de ces passages, comme « le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte » Jacques 2,26. Alors, je n'ai pas l'intention de remettre en cause cette vérité biblique, je veux seulement mettre l'accent sur le sens du mot « œuvre » dans le Nouveau Testament. Nous avons tendance à limiter le sens de ce mot. Une œuvre, pensons-nous, c'est ce qu'on fait, c'est une action concrète. Visiter les malades, les personnes seules, s'occuper des pauvres, participer à la vie matérielle ou financière de l'Église, accepter des responsabilités, prêcher, préparer la liturgie, prier, faire le ménage du temple, préparer la Sainte Cène, s'occuper de la technique, mettre à jour le site de l'église, entretenir le terrain autour du temple, préparer les repas communautaires, exercer l'hospitalité, etc. J'ai oublié personne, j'espère. Ce sens de faire, oui, accompagner la musique aussi.
La garderie.
Et la garderie.
L'école publique.
Ce sens de faire est bien présent dans le Nouveau Testament. Je cite, « Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2,10. Mais il y a un autre sens que l'on oublie presque toujours et qui pourtant est plus important encore. C'est l'attitude de cœur. c'est-à-dire ce que nous sommes devant le Seigneur, dans notre relation avec lui. De quoi est faite et comment se passe notre relation de tous les instants avec lui. L'expression « attitude de cœur » n'est pas employée dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament en parle souvent. Dans Galates 5, 22, Paul nous décrit des attitudes de cœur lorsqu'il parle du fruit de l'esprit. Lorsqu'il parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi. Toutes ces vertus traduisent une attitude de cœur. Dans le passage qui précède, c'est-à-dire Galates 5, 19, Paul parle aussi d'une autre catégorie d'attitude de cœur, la conduite, la pureté, la débauche. La liste comprend 12 autres termes dans le registre du péché. Or, il en parle comme étant des œuvres de la chair. Ainsi, dans le Nouveau Testament, les mots « fruit » et « œuvre » ne désigne pas uniquement ce que nous appelons des actes concrets. Il désigne aussi ce que nous sommes dans le Seigneur, c'est-à-dire de quoi est faite notre relation avec lui. C'est en étant conscient de ce sens, qui est si souvent ignoré, que l'on peut comprendre ce que dit Jésus à ceux qui ont prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de miracles et qui pourtant s'entendent dire « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous avons tous tendance à penser que quelqu'un qui prophétise, qui chasse des démons et fait des miracles, est parfaitement dans le plan de Dieu, qu'il est agréé par Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ce que dit Jésus dans ce texte. Cette condamnation très surprenante ne doit pas nous faire penser que ces hommes mentent, qu'ils ont prétendu prophétiser, chasser des démons et faire des miracles. Ils ont réellement fait ce qu'ils ont dit. Mais, aux yeux de Dieu, les œuvres de justice et d'amour, on voit ça dans Matthieu 5, c'est-à-dire l'attitude d'un cœur aimant, est plus importante que l'exercice des charismes. Quelle est la leçon à tirer? Écoutons ce que dit Jésus à des responsables religieux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nèfle et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Matthieu 23. Jésus nous montre par là que dans toutes les situations, la droiture et l'amour doivent toujours précéder l'action. L'apôtre Paul a aussi montré l'importance de l'attitude de cœur au début du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Je cite « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est quelque chose, hein, ça. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » L'Ancien Testament aussi accorde la première place à l'attitude de cœur, à ce que l'homme est, et non pas d'abord à ce qu'il fait. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est Dieu qui avait demandé au peuple d'offrir des sacrifices. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé ça, c'est Dieu. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Psaume 51. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Proverbe 15. Pourquoi l'attitude de cœur est-elle plus importante que l'action? Parce qu'on peut travailler pour Dieu en étant prisonnier du péché. On peut le faire sans être converti. On peut le faire par orgueil, par désir de reconnaissance. On peut le faire pour être honoré par les hommes. On peut le faire pour mériter, oh quel vilain mot, mériter son salut. Et pour beaucoup d'autres motifs encore. Mais Dieu n'a que faire de ses œuvres qui sont l'expression d'un esprit religieux dénoncé par Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre conversion, notre cœur, notre être tout entier, notre vie tout entière. Car il veut nous délivrer du pouvoir des ténèbres et nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés, ça c'est Colossiens 1. L'action par elle-même ne peut pas façonner notre attitude de cœur, c'est-à-dire une attitude qui honore le Seigneur, qui le met à la première place. Seule la conversion, la nouvelle naissance et la sanctification peuvent faire cela. Sans la conversion et ce qu'elle engendre, l'action devient rapidement un but en soi. Elle a sa logique, elle a ses ambitions et peut devenir une religion, dans laquelle Dieu, Christ et le Saint-Esprit sont peut-être mentionnés par réflexe religieux, mais sont en réalité complètement marginalisés. Car ce ne sont pas eux qui dirigent l'action, mais l'esprit de l'homme et les projets de l'homme. Il est très courant pour des chrétiens et des églises de tomber dans cette religion du faire. En effet, il est beaucoup plus facile d'entreprendre des projets modestes et même ambitieux. C'est beaucoup plus facile que de se mettre à genoux pour adorer Dieu et chercher vraiment sa volonté. Souvenons-nous de la lettre aux sept églises dans l'Apocalypse et du leitmotiv « Je connais tes œuvres » qui revient dans cinq de ces lettres. Écoutons ce qui est dit à l'église de Sardes. « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais aux yeux des hommes. Mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Apocalypse 3. Il est beaucoup plus valorisant pour notre ego de travailler pour Dieu que de laisser le Seigneur nous façonner pour que le caractère du Christ soit inscrit en nous par la consécration, l'obéissance et la prière persévérante. si nous voulons que l'Église et nous-mêmes servions la gloire de Dieu, il est indispensable que les membres et les responsables des communautés retrouvent l'ordre des priorités. Il est donc urgent de cesser de donner la priorité au faire et d'apprendre à être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Apprendre à être, on ne va plus rien faire. Il n'y a aucun risque qu'un chrétien ou une église qui se laisse conduire par l'Esprit Saint cesse de faire. Car l'Esprit Saint n'a jamais laissé quelqu'un inactif. Alors, faites dans cet amour, faites dans cet esprit nos œuvres que Dieu a préparées d'avance, Éphésiens 2:10, seront accomplies dans la volonté de Dieu. Elles seront conduites par l'Esprit et porteront des fruits pour la seule gloire de Dieu. Que les mots importants, Seigneur, que tu veux que nous retenions, ne s'évaporent pas à la sortie de ce culte. Grave-les, s'il te plaît, Seigneur, dans nos cœurs. Grave-les dans notre esprit, afin que notre volonté soit ferme, Seigneur, pour mettre en œuvre ce que nous savons être la vérité, parce que c'est ta vérité, Seigneur. Fais de nous des enfants prioritairement aimants, dans toutes circonstances. T'aimant toi, Seigneur, bien sûr, aimant nos frères, nos sœurs et notre prochain, pour ce que nous allons faire soit vraiment à ta gloire, à toi seul, Seigneur. Amen.